J'aimerais vous parler de l'enseignement de Paul parce que les apôtres sont morts, mais ils sont toujours avec nous. Avec nous par leurs paroles et leur exemple. Et l'Église, elle se construit sur l'enseignement des apôtres. S'il n'y a plus l'enseignement des apôtres, c'est une église de coton. C'est une vapeur. L'enseignement des apôtres, c'est le roc sur lequel nous pouvons construire. L'Église n'a pas à changer de modèle. En fait, elle ne se modernise pas, l'Église. Quand je suis arrivé à Rennes, j'avais une 2 chevaux avec une bâche en plastique au-dessus qui tenait avec des agrafes. Je me suis modernisé, oui. Mais l'Église, elle reste selon l'enseignement des apôtres. Et je voudrais vous le partager avec l'émotion, avec un sentiment, je dirais, fraternel et paternel, vous permettez ? Comme Paul avait parlé ce jour-là aux chrétiens de Philippe quand il était en prison à Rome. Et je lis avec vous le premier chapitre, Philippiens, chapitre 1er. Et on va commencer au verset 3. Et nous allons, très simplement, un peu de l'abondance du cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si on n'a rien dans le cœur, on dit rien. Et j'aimerais commenter et appliquer ces paroles à notre vie quotidienne d'aujourd'hui. Philippiens 1, chapitre 1er, verset 3, jusqu'au verset 11. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Soit dans mes liens, mes chaînes, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Paul est en prison, non pas qu'il ait commis un mal, mais il n'a commis que le bien. Il est en prison à cause de sa foi et de l'Évangile. Donc il est dans une situation difficile. Je vous porte dans mes liens, je vous porte dans mes chaînes. Je ne maigris pas, je ne m'irrite pas. Je suis dans les chaînes et je pense à vous et je prie pour vous. Et en plus, Paul en prison, et en plus, les chrétiens lui causent des tristesses, des afflictions. La leçon que j'en tire, ne recherchons pas ce qui paraît le plus facile et qui parfois nous fait dire « ça, c'est la bénédiction ». Parce que c'est facile. devant l'apôtre Paul, réfléchissons bien. Ne recherchons pas ce qui semble facile. Est-ce que nous pensons construire son Église avec du coton, alors que Christ a construit l'Église avec ses souffrances de la croix? Alors que lui a dit, si vous voulez me suivre et construire avec moi, prenez aussi votre croix. Rechercher ce qui est facile, c'est rechercher son plaisir. Ça, c'est le chemin large. C'est le chemin dans lequel nous sommes valorisés, où tout est beau. Mais ceux qui prennent ce chemin ont abandonné le combat de la foi. Ceux qui prennent ce chemin ne sont plus sur le chemin de la croix. Suivre Jésus, c'est porter avec lui une part de souffrance. Alors il faut prier pour que Dieu nous donne de bien discerner le vrai chemin. Il n'est pas forcément le même pour tous, parce que chacun aura sa part de mission, de responsabilité, de souffrance. Paul dit dans ce beau texte des Philippiens qu'il prie pour que l'amour des chrétiens augmente de plus en plus. Je dis toujours aux futurs mariés, priez pour que votre amour augmente de plus en plus. Je remarque que souvent ils prient pour avoir des beaux enfants, pour avoir assez vite une belle maison, et puis pour avoir beaucoup de bonheur. Et ils ne prient pas pour l'essentiel. Il faut prier pour que notre amour augmente. L'amour, ça se demande à Dieu. L'amour, ça se travaille. L'amour, il faut regarder où nous en sommes dans ce chemin. Mais si nous avons de l'amour pour le Christ, pour les autres, nous verrons le meilleur qu'il faut faire. Quand on n'a pas d'amour pour sa femme, on peut même oublier son anniversaire ou lui offrir deux fois rien. Mais quand on a de l'amour pour quelqu'un, en général, on essaie de lui offrir le meilleur. Que votre amour augmente pour que vous puissiez discerner ce qui est le meilleur. Sans amour, on fait peu de choses. On dit vite, ça suffit comme ça. Et on fait les choses qui nous valorisent et les choses faciles, mais pas forcément les meilleures. Il faut prier pour avoir de l'amour envers les autres dans l'Église. Un jour, un pasteur s'était vraiment fâché. Il s'était fâché après une de ses paroissiennes, une chrétienne, parce qu'elle avait dit, ça pouvait être pris dans plusieurs sens, elle avait dit, Seigneur, donne plus d'amour à notre pasteur. Et lui, il a dû penser, ben voilà, on juge que je n'ai pas assez d'amour. Mais en fait, peut-être était-ce un peu maladroit. Mais dans le fond, il y avait une vérité. Paul dit, je prie pour que votre amour augmente. Parce que si notre amour augmente, nous allons être capables de bien regarder, de discerner ce qui est agréable à Dieu. Nous ferons attention. Regardez, quand on est fiancé, mais même marié, à quel point on fait attention à tout, dans sa tenue, dans ses paroles, dans ses contacts avec l'autre personne. L'amour nous donne d'être attentif. Sinon, nous en ferons de moins en moins. Et cela nous suffira. Que vous discerniez les choses les meilleures. Voilà l'enseignement de Paul. Ce qui veut dire qu'il y a des priorités. S'il y a des meilleurs, ça veut dire qu'il y en a qui sont moins meilleurs. Est-ce que vous avez réfléchi dans votre vie chrétienne aux choses les meilleures que vous pourriez faire pour vos frères, pour l'Église, pour votre famille? Je ne parle pas de ce premier choix que nous faisons à la conversion entre le bien et le mal. Moi, j'ai choisi le bien, et vous aussi. Je ne parle pas de ce premier choix qui est quand même toujours à rappeler, parce qu'aujourd'hui, quand on perd les valeurs dans un monde comme aujourd'hui, eh bien, on confond le bien et le mal, et on appelle mal ce qui est bien. Mais ici, l'apôtre Paul dit, il faut discerner entre le bon et le plus que bon, entre le bon et le meilleur. Quelque part dans l'Évangile, il est dit de faire bien, et après il est dit de faire mieux. Où est-ce que nous voulons rester au premier stade de la vie? Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas fumer, ne pas tromper sa femme, ne pas battre ses enfants ou sa femme. Ça, c'est le premier stade, ça, c'est le premier pas. Notre problème, c'est de discerner entre les bonnes choses et le meilleur. Discerner, ça veut dire, c'est pas forcément visible, ça saute pas aux yeux, comme on dit. Ça nous demande une petite réflexion. Je pourrais faire mieux. Je ne fais pas les choses comme je devrais les faire. Ça nous demande l'aide de la parole de Dieu, les exemples des prophètes, des patriarches, des apôtres. Ça nous demande aussi une écoute dans l'Église. Regardez bien l'Église. Et en cherchant le meilleur, nous progressons. Nous dépassons ce que nous faisions hier. Nous sommes de mieux en mieux. Nous dépassons les choses secondaires. Nous ne retournons pas en arrière. Nous allons en avant vers la perfection. Nous renonçons à des œuvres mortes. Nous avons trouvé la perle de grand prix. Nous y mettons de l'énergie. Nous cherchons à être meilleurs dans nos relations, dans la prière, dans la sainteté de vie. Et dans ce texte, Paul dit, « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous. » C'est très rare que Paul nous parle ainsi. « Dieu m'est témoin. » Ça veut dire, Dieu qui me regarde, il peut le dire. « Il m'est témoin que je vous chéris. » Tous. Je pense qu'on a peut-être besoin de dire à notre frère, à notre sœur, que nous l'aimons. Mais Paul, il dit, je vous chéris. Autrement dit, je prends soin de vous. Je regarde comment vous allez. Je me renseigne sur vous. Je suis attentif à vos souffrances, à vos joies, à vos peines. Je vous chéris. Peut-être que les Philippiens avait besoin d'entendre cette déclaration d'amour, parce que dans l'église de Philippe, il y avait des difficultés comme dans toutes les églises. Et peut-être que certains se posaient la question, est-ce que l'apôtre Paul, est-ce qu'il m'aime vraiment, moi qui m'appelle Madame Saint-Tiche, vous connaissez Madame Saint-Tiche? Il y avait deux sœurs dans l'église de Philippe qui ne s'entendaient pas, qui ne se regardaient pas à la fin du culte et qui ne se seraient jamais rendues à service et qui évitaient de se rencontrer dans la rue, Évodie et Saint-Tiche. Et l'apôtre Paul dit, « Je vous chéris tous. » C'est comme dans une famille. Parfois, il y a des enfants qui ne sont pas gentils avec leurs frères et sœurs, mais les parents aiment les enfants tous de la même manière. Je vous chéris tous, Dieu m'est témoin. Je pense que dans une église, nous ne devons pas rejeter l'église pour une personne qui va mal, ou deux, ou trois. Nous ne devons pas rejeter une église ou quitter une église à cause de Évodie et Saint-Tiche. Paul reste dans l'église et tous restent. Il y a dans l'église d'autres personnes. Je pense à Épaphrodite dans l'église de Philippe. Épaphrodite qui luttait dans ses prières et qui a été malade en rendant des services à l'apôtre Paul, qui se dévouait, qui comptait jamais ses heures, qui donnait, puis il a été tout près de la mort. Alors, il faut regarder ces gens-là. Il ne faut pas regarder seulement ceux qui sont boiteux. Mais Paul dit, « Dieu m'est témoin, je vous chéris tous, je vous aime tous. Pas de préférence, je vous aime tous. » Ça, c'est vraiment à l'imitation du Christ qui a un amour égal pour chacun de nous. Nous allons aller un peu plus loin et arriver au verset 20 où nous laissons le texte nous parler. Verset 20, Épître aux Philippiens, chapitre 1er. On va lire le verset 19 pour ne pas couper la phrase. « Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Paul se prépare à être exécuté, se prépare à subir la peine capitale. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Amen. L'apôtre Paul, là, il est en prison, il est enchaîné et on a préparé son exécution. Et au fond de son cœur, il n'a pas reçu une parole de Dieu, il ne sait pas. Mais il semble discerner que pour lui, le meilleur, c'est qu'il reste. En fait, il dit, pour moi, lui qui a été dans le paradis, lui qui a vu le paradis, pour moi, le meilleur, c'est de partir. Souvent, les chrétiens, ils ne veulent pas mourir. Ils ont l'impression que en mourant, ils veulent retenir l'heure, ils veulent freiner, alors que le paradis, qu'il n'est pas permis de raconter sur la terre, nous attend. Et Paul dit, ça pour moi, c'est le meilleur. Mais je pense au nécessaire, je pense à l'Église. Et Paul, il va discerner que pour lui, il faut qu'il demande de rester. Souvent, nous avons abusé en disant « Dieu m'a inspiré, Dieu m'a montré, Dieu m'a poussé ». Mais je crois qu'il faut faire travailler son cœur, son intelligence. Paul, le Seigneur ne lui a pas dit s'il allait mourir ou pas. Mais il ressent dans son cœur que rester serait bien pour l'Église. Vous me direz, il prend la meilleure part. Non, la meilleure part pour lui, c'est de partir. Mais je crois qu'il nous faut aussi choisir avec notre propre cœur. Parfois, des gens m'ont dit, c'est pas moi qui vous parle, je suis inspiré. Dites ça à votre femme. Chérie, je t'aime, mais ça, c'est pas moi, je suis inspiré. je vais te dire quelque chose, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est l'inspiration. Je pense que si nous travaillons comme cela avec Dieu, nous n'allons pas montrer au Seigneur notre choix pour lui et notre amour pour lui. Et nous n'allons pas montrer au Seigneur aussi ce combat que nous menons. Nous devons être capables de discerner les nécessités, discerner ce qui est utile de rester à notre poste, de faire les meilleurs choix, même si ce sont des choix difficiles pour nous et contre nous. Frères et sœurs, faites travailler votre amour pour Dieu. Quand vous voyez des choses à faire, faites travailler votre responsabilité d'enfant de Dieu. Dieu nous a créés avec une intelligence pour lui. Dieu nous a créés avec un bon sens, avec un discernement. N'attendez pas forcément des révélations. Si tu vois ton frère dans le besoin, là, c'est un appel sans révélation, sans inspiration. Tu lui donnes un morceau de pain et c'est toi qui le donnes de ton cœur. Nous devons travailler tout cela. Paul donc veut rester en vie. Et on a l'impression, quand je lis ce texte, que Paul, il décide un peu. Je veux rester en vie. Il fait le choix de rester pour l'Église. Paul est un porteur de l'Église. Il faut que les chrétiens de l'Assemblée soient des porteurs de l'Église et qu'ils sachent où est la chose nécessaire qui ne sera pas ôtée, qu'ils sachent quelle est leur place dans l'Église, quel est leur travail dans l'Église, et qu'ils n'attendent pas forcément des révélations, mais qu'ils sachent que devant un frère, il faut toujours dire bonjour. Il faut toujours prêter attention à ses besoins. Il faut toujours prier pour lui. Il faut toujours faire le choix prioritaire. Je vous pose la question, frères et sœurs. Choisissez qui vous voulez servir. Choisissez aujourd'hui. Vous ne pouvez pas servir le monde et le Seigneur, Mammon et le Christ. L'apôtre Paul dit, « Je voudrais rester pour l'Église. » Comme le Christ qui vit pour l'Église, nous devons vivre pour l'Église. Et tant que Dieu nous donne des forces, travailler pour cette Église. Nous ne prenons pas de retraite par rapport à l'Église. Nous ne disons pas maintenant, « C'est fini, j'ai donné maintenant ma part, je ne peux plus rien donner. » L'Église, elle est avec nous éternellement. Et tant que vous aurez des forces, et tant qu'il y aura des enfants autour de vous, donnez. Je vais terminer en lisant le verset 25 à 26. Je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Mon retour auprès de vous. Il est en prison et il a l'impression qu'il va retourner à l'Église comme une résurrection. Mon retour auprès de vous. C'est important l'Église. C'est important la participation aux assemblées de l'Église. C'est important parce que c'est la vigne avec ses sarments. C'est important parce qu'il y a là toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est important parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Des chrétiens m'ont dit, j'ai des meilleurs cultes quand je suis tout seul avec Internet. Je ne conteste pas leurs paroles. Mais je pense que ces frères et ces sœurs sont des demi-chrétiens. Sont des chrétiens à moitié. Parce qu'il leur manque, même s'ils ont une excellente parole par Internet, il leur manque la deuxième partie du culte qui est la communion de l'Église. la vie communautaire, fraternelle. Il leur manque le corps de Christ. Nous ne devons pas nous tromper. Un chrétien vit en écoutant et en se mettant au rythme de l'Église. On reçoit par l'Église. Si nous venons au culte quelques fois par an, je pense que nous nous privons d'une bénédiction et nous privons l'Église de bénédiction. Épaphrodite, à Philippe. Épaphrodite, il a été près de la mort. Et Paul dit aux Philippiens, je vous le renvoie et vous allez vous réjouir de le revoir. L'Église, c'est s'attrister pour ceux qui ne reviennent pas. L'Église, c'est se réjouir avec ceux qui reviennent. L'Église, c'est de recevoir les autres. C'est une dimension de notre salut, accueillir les frères et sœurs au culte. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Je pense qu'il y a des chrétiens qui ont raté leur progrès personnel en se coupant de l'Église. Et quand on se coupe de l'Église, il n'y a plus personne pour nous alerter de notre endormissement, plus personne qui nous alarme, et nous laissons entrer dans notre cœur des impuretés, on ne nous reprend pas, des superstitions, des mauvaises interprétations de la Bible. En se privant de la communauté, de la communion fraternelle, je pense que nous ratons une de nos plus grandes missions de chrétiens, la fraternité. Nous sommes sauvés pour former un peuple. Et nous nous privons d'une récompense céleste. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, aux frères, aux sœurs. Mais si on ne voit jamais les frères et sœurs, comment pouvons-nous penser qu'ils ont besoin ? C'est en se rencontrant, en priant, en nous aimant, en discernant, que nous apporterons la petite goutte d'eau qui ne sera jamais perdue. Je vais revenir vers vous, dit Paul, pour votre progrès, pour votre avancement et pour votre joie. Permettez-moi de vous dire, en réfléchissant au ministère, en réfléchissant à l'Église, que nous communiquons aux autres par l'action du Saint-Esprit. Nous ne nous en rendons pas toujours compte. Ça ne se ressent pas physiquement, mais nous communiquons aux autres un désir d'aller plus loin, un désir de progrès. Nous communiquons une joie, un bien-être, un apaisement, un repos. Nous communiquons dans l'Église quelque chose par notre seule présence, par notre prière et par notre amour fraternel. Tout ça, ça fait partie de la création de Dieu. Nous communiquons. L'Église a besoin d'une présence réelle. Pour nous, la présence réelle du Christ, elle n'est pas dans le pain. Le pain n'est que le symbole qui rappelle le Christ. La présence réelle du Christ, c'est nous. Nous portons le Christ, communiquons le Christ. Eh bien, frères et sœurs, je vous souhaite de méditer davantage sur les épîtres de Paul et de vous laisser enseigner pour que nous soyons une Église qui communique, qui donne, qui vit, qui apporte la vie. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je pense que le matin, je vous apporte quelque chose avec mon intelligence, mais mon cœur, avec le Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que vous m'apportez quand, à la sortie du culte, quand il n'y a pas trop de bousculade, eh bien, vous me serrez la main, vous me dites un petit mot, vous me regardez. Je ne sais pas, le fait de passer devant moi, ça m'inspire. Je me dis, voilà l'Église, les enfants de Dieu qui sont porteurs du Christ, porteurs du Saint-Esprit. Paul dit, je vais rester avec vous pour votre progrès dans la foi et pour votre joie. Donnons-nous de la joie. Amen. Bien sûr, on pourrait dire, moi je vais dire à mes frères tous les matins, je vous aime mon frère, je vous aime ma sœur. Bien sûr, mais je pense qu'il faut voir les choses autrement. Je pense qu'il faut des actes, je pense qu'il faut être proche, il faut un regard, il faut des poignées de main qui communiquent, il faut des coups de main qui communiquent, il faut des aides, il faut de la relation, il faut de la fraternité, une église, sa vie comme ça. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Merci pour les frères et les sœurs de l'église. Et merci parce que ta parole et le Saint-Esprit nous permettent de discerner les choses les meilleures à faire. Et nous voulons travailler au meilleur. Nous ne voulons pas seulement nous rencontrer de temps en temps. Nous voulons marcher d'un même pas, marcher sur la même route et faire que personne ne se perde et que personne ne recule ou ne s'égare dans ses rêves et dans ses pensées. Nous voulons travailler au salut de ceux que tu as mis à côté de nous. Car nos frères et nos sœurs, c'est toi qui nous les as donnés. Comme notre mari ou notre femme, c'est toi qui nous donne. Et nous voulons, Seigneur, travailler à notre salut. Pas seulement à notre salut personnel, mais au salut de l'Église. Afin que l'Église soit prospère, belle, accomplissant les meilleures œuvres pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.